Bien, chers amis, c'est un très grand plaisir d'accueillir ce soir Olivier Labarthe. Beaucoup d'entre vous, bien sûr, le connaissent. Olivier a des liens très étroits avec le MIR. On a rappelé tout à l'heure qu'il était parmi ses fondateurs. Lui ajoute qu'il a été le premier fournisseur du musée, puisqu'il préside la société du Musée historique de la Réformation, et que beaucoup des pièces qui sont exposées dans ce musée proviennent de ce musée. Et tout récemment, c'est à lui que je me suis adressé pour solliciter le prêt de la part du Musée historique de la Réformation de l'exemplaire de la Bible qui a servi de support à l'installation artistique sur la Scriptura dont je parlais tout à l'heure. Et cet exemplaire, gracieusement prêté par son musée, est exposé dans une vitrine ad hoc avec l'ordinateur qui pilotait l'installation. Pour mémoire, Olivier Labarthe a fait ses études de théologie à Genève et à Strasbourg. Il a été pasteur en paroisse de 16e siècle, mais ça viendra. De 1971 à 1991 dans les paroisses en Champagne et en Mandement, puis au Petit-Lancy. Ensuite, il a pris une autre charge, celle de directeur du service témoignage et solidarité de l'église de Genève. Et plus tard, il a été secrétaire général du département missionnaire, échange et mission. Mais parallèlement à ses activités, il mène depuis de très longues années des travaux d'érudit, je dirais, au sein de l'Institut d'histoire de la Réformation, et notamment l'édition des œuvres imprimées de Farel et celle des registres de la Compagnie des Pasteurs pour la période 1565 à 1588. Je crois que je ne me suis pas trompé cette fois. C'est évidemment dans ce cadre qu'il est devenu un familier de Théodore de Bèze. D'ailleurs, ils ont été tous les deux modérateurs de la Compagnie des Pasteurs. Et c'est de ce grand homme de la Réforme, successeur de Calvin, qui va nous parler maintenant. Je te remercie beaucoup, Olivier, d'avoir accepté cette lourde tâche et nous nous réjouissons beaucoup de t'entendre. Merci.
Cher Jean-Jacques, ah oui, je ne te voyais plus. Et chers amis, merci beaucoup de cette occasion qui m'est donnée de pouvoir évoquer cette figure assez passionnante, fascinante de Théodore de Bèze. Vous savez, c'est un peu le mal-aimé, parce que, regardez ici, il n'y a pas beaucoup de portraits. Et puis, c'est pourtant quelqu'un qui est fondamental pour l'histoire de la Réforme, et j'aurai le plaisir de vous le présenter tout à l'heure. Mais je suis un peu gêné, parce que le grand spécialiste de Théodore de Bèze, c'est mon inestimable ami Alain Dufour qui, comme d'habitude, se cache dans un coin. Mais entre lui et moi, on tenait l'ensemble du MIR, n'est-ce pas, tout à l'heure. Et c'est avec beaucoup de prudence que je vais donner ces propos, car la fine science appartient à Alain. Théodore de Bèze, c'est quelqu'un aux mille facettes. Vous allez le découvrir. C'est un poète d'exception. Un juriste, un diplomate, un professeur de grec, un pasteur, un écrivain. Alors, pour vous faciliter la compréhension de mon propos, je commencerai par une brève esquisse biographique pour vous rappeler l'ensemble du parcours de vie de cet homme. Et puis ensuite, peut-être inspiré par les chemins des Huguenots, nous partirons à la trace de Théodore de Bèze. Vous avez simplement des dates, mais ça vous permet de vous rappeler qu'on est au milieu dans l'entier du XVIe siècle, puisque Bèze naît en 1519 à Vézelay, le 24 juin. Prenez cette date dans vos calepins pour faire la Saint-Théodore. Et puis, très vite, à l'âge de 5-6 ans, il est embarqué par son oncle qui avait probablement discerné des qualités tout à fait remarquables chez ce garçon, et il va faire des études à Orléans, Bourges et Paris. Et dans ses études, il va avoir une influence fondamentale de la part de Melchior Vollmar, cet humaniste allemand qui travaille à Bourges et qui va façonner la pensée de Bèze. Et Vollmar est tout à fait intéressant pour nous parce que c'est le même qui va façonner la pensée de Calvin. C'est-à-dire que c'était un humaniste et en même temps un évangélique qui transmettait les rudiments de la foi réformée, qui n'avait pas encore ce nom-là, mais qui permettait à ses élèves d'être passionnés pour le renouveau de l'Église. Et puis c'est dans cette période-là que Bèze nous raconte qu'il a découvert un texte de Henri Bullinger, donc le réformateur de Zurich. Et c'est ce texte de Bullinger qui va stimuler Bèze sur son chemin de la foi nouvelle. Mais il faut que jeunesse se passe. Et de 1540 à 1548, Bèze est à Paris. Il est juriste, oui, pour gagner un petit peu sa vie. Mais on ne sait pas s'il avait besoin de gagner sa vie, puisqu'il était noble et avait un peu de fortune personnelle. Mais surtout, il s'adonnait à la poésie. Et c'est extraordinaire de voir cet homme pris dans les lettres et d'écrire des poèmes, des poemata qu'il va publier. Mais malheureusement, les convictions confessionnelles de Bèze vont l'obliger à fuir vers Genève. Et c'est en 1548 qu'il arrive à Genève. Et il épouse rapidement Claude de Noce, avec qui il s'était fiancé dans le secret parisien, et il l'avait pris dans ses bagages. Et arrivé à Genève, il ouvre la valise et il déclare sa flamme à Claudine. Et il se marie. 1549-1558, Bèze va travailler à Lausanne, dans la nouvelle académie, l'université de Lausanne, qui est donc beaucoup plus ancienne que celle de Genève. Et c'est là qu'il va notamment écrire ce beau texte d'Abraham sacrifiant, une tragédie pour mettre en jeu les bagarres entre les réformés et les catholiques. C'est là qu'il va se mettre à traduire le psautier, le versifier, prenant ainsi la succession de Clément Marot. Et puis, aussi à Lausanne, comme professeur de grec, il va commencer un travail qui va durer toute son existence, à savoir l'annotation du Nouveau Testament, la traduction du grec en latin et des éditions complémentaires successives. En 1558, il y a beaucoup de remous entre les autorités bernoises et les professeurs de l'Académie de Lausanne, et Bèze, anticipant un peu les remous, quitte Lausanne et vient à Genève, où il est reçu comme lecteur en grec et pasteur suppléant. Mais 1558, c'est le moment où Genève a décidé de construire une nouvelle école, une académie, et le collège Calvin, que nous découvrirons tout à l'heure, eh bien, très vite, Calvin se rend compte que le personnage qui a l'expérience, c'est Théodore de Bèze, et il le nomme professeur de grec et recteur de l'académie. Et c'est dans cette fonction-là que Théodore de Bèze va élaborer un certain nombre de traités de théologie réformée. Mais Bèze, de par ses origines françaises, va être très sensible aux questions de la vie de l'Église réformée de France, et c'est ainsi qu'il participe au premier synode réformé à Paris en 1559, et il prête son concours à l'écriture de la confession de foi. En 1561, il y a ce fameux colloque de Poissy où, pour la première fois, d'une manière très officielle, les réformés peuvent défendre leur foi et Bèze y joue un rôle très important. Et il y a ensuite deux années très intéressantes qui montrent que Bèze reste en France au service des Condés et du parti réformé, allant jusqu'à la première guerre de religion. 1564, c'est évidemment la mort du maître et ça ne passe pas inaperçu. Ensuite, en 1572, la Saint-Barthélemy, vous en connaissez les effets, mais Bèze va profiter ou mettre à profit cet événement pour rappeler les responsabilités des magistrats inférieurs et il écrit ce fameux ouvrage du droit des magistrats sur leur sujet. Et puis en 1586, il y a un moment très important, c'est le colloque de Montbéliard, une de ses ultimes tentatives de se comprendre entre les luthériens et les réformés, mais ça n'aboutit pas, et nous en reparlerons. En 1588, Claudine de Noce meurt et Bèze se remarie avec Catherine del Piano. En 1600, il y a cette rencontre historique très intéressante entre Henri IV et Théodore de Bèze à l'Éluiset, en dessus du village de Viry, donc dans la banlieue de Saint-Julien, si vous voyez où c'est. Et puis en 1605, le 13 octobre, c'est le décès de Théodore. Voilà, brièvement esquissé, un petit parcours de vie pour vous rappeler tous les événements du XVIe siècle. Théodore de Bèze, c'est toujours un vieillard, n'est-ce pas ? Et on le voit haletant et peinant dans le cortège de la 1602. Et il ne faut pas se faire de soucis, c'est quand même l'image qu'on a. Théodore de Bèze, c'est le sourdingue qui n'a rien entendu de l'escalade et qui le lendemain est réveillé et pour avoir la bonne idée encore d'aller prêcher. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a une conformité, ni par la barbe, ni par le chapeau, ni par l'œil, mais toujours est-il que c'est notre manière à nous, Genevois, de nous rappeler année après année l'importance de ce personnage. Mais il y a un autre endroit, hein, la statue, le monument, c'est la tête de Théodore de Bèze sur le monument international de la Réforme, comme il s'appelle, et c'est aussi cette statue très importante d'un homme qui conduit les affaires et qui sait où il va. Mais il est un autre tableau qui est beaucoup plus subtil. C'est Bèze à 24 ans. C'est un tableau propriété du Musée historique de la Réformation, restauré grâce aux ailes d'Isabelle. Il faut quand même que je la cite ce soir parce qu'elle a été d'un précieux concours dans les efforts de financement pour la restauration de ce tableau. Et c'est vraiment la délicatesse de cet homme, encore poète à l'époque ou toujours poète, mais cet érudit qui a soif d'avancer dans la vie avec toute la finesse et la délicatesse qu'on lui reconnaîtra. Théodore de Bèze, il y a plusieurs façons d'en parler à Genève. On peut aller au mur des formateurs, on peut se souvenir qu'il y a une salle, Théodore de Bèze, je vous donnerai le lieu tout à l'heure, mais il y a surtout une rue Théodore de Bèze. Et la rue Théodore Bèze va être le fil conducteur de mes propos. En bas, la rue Théodore de Bèze, arrêtez-vous une fois et regardez l'écriteau « Réformateur Genevois ». Et la plaque commémorative Théodore de Bèze, réformateur, poète, premier recteur de l'Académie de Genève. Il faut dire que Théodore de Bèze est à côté de Émile Jacques Dalcroze. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est quand on est à la croisée de ces deux routes, on est obligé de se souvenir que l'un et l'autre sont poètes. Toutes les chansons de Jacques Dalcroze, vous les connaissez. Il a non seulement fait la musique, mais il a aussi fait les paroles. Et tous les psaumes que nous chantons, une grande partie des psaumes, eh bien, c'est les paroles de Théodore de Bèze, revu bien sûr à Genève par M. Piachot, mais ça c'est une autre histoire. Le psaume 47, vous le connaissez bien. Orçus tous humains frappés en vos mains, qu'on doit sonner, qu'on doit entonner. Le nom solennel de Dieu éternel, c'est le Dieu très haut que craindre il nous faut, le grand roi qui fait sentir en effet sa force au travers de tout l'univers. Nous pourrions peut-être le chanter. Orçus tous humains frappés en vos mains, pour nous sonner qu'on nous entonner le nom solennel de Dieu l'Éternel. C'est le Dieu très haut que craindre il nous faut, le grand roi qui fait sentir en effet sa force au travers de tout l'univers. Eh bien, je vous remercie. Vous remarquez cet art de la poésie de rimer les phrases de telle manière qu'on s'en souvienne. Je suis sûr que quand j'ai commencé Orsu tous humains, vous, déjà ça galopait dans vos têtes. C'est la même chose que si j'aurais pu prendre « Certes, ces choses belles hein. ». Tous ces cantiques-là, c'est une versification de Théodore de Bèze. Alors, c'est l'aboutissement de son travail, parce que Théodore de Bèze, dans ses Poemata, écrivait notamment à propos de deux soleils qui devenaient à Paris, « En voyant hier aux France deux soleils, tu te pris tout entière aux France à les admirer. Mais aujourd'hui, sache admirer plutôt les biens que te promet la vue de ces deux astres. François est un soleil, François Ier. Charles en est un autre, Charles Quint. Les astres bénins l'attestent clairement qu'un traité les rapproche et les accorde, tu n'auras plus d'éclipse à craindre. » Une vision diplomatique. Hein. Si effectivement, à cette époque, François Ier et Charles Quint avaient trouvé la voie de l'harmonie, l'Europe aurait été bien différente. Mais le poète a aussi des coups de cœur. Absente et candide. Bèze, pourquoi rester ? Audebert est absent. Pourquoi rester là ? Paris détient tes amours. Orléans possède tes plaisirs et toi, tu persistes à demeurer à Vézelay, loin de ta mignonne candide et de tes amours. Et loin de tes plaisirs et de ton mignon Audebert. Allons, Vézelay, adieu. Adieu mon père, adieu mes frères, car je puis bien me passer de Vézelay, me passer de mon père et des uns et des autres, mais non de mes mignons, Candide et Audebert. Mais je le demande, qui préférer des deux ? À qui dois-je ma première visite ? Pourrais-je, Candide, te préférer personne ? Te préférer personne ou de Bère ? Ah, si je me coupais en Dieu ! Une part de moi s'en irait vers Candide, l'autre courrait vers Audebert. Mais Candide est si avare, je le sais, qu'elle veut tenir tout Bèze. Et de son Bèze, Audebert est si cupide qu'il brûle de posséder Bèze en son entier. Aussi j'embrasse l'un et l'autre, désireux de les voir tout entiers, tous les deux, et de jouir de mon intégrité et de la leur, il faut cependant préférer quelqu'un. Trop cruelle nécessité. Mais s'il faut préférer quelqu'un, à toi la priorité, Audebert. Que si Candide vient à se plaindre, eh bien, je la ferai taire avec un petit baiser profond. On est au bord des coquineries. Eh bien, ces coquineries vont être comme une casserole dans la carrière de Bèze. Parce que quand il a été candidat à Lausanne, on connaissait ses poemata. Il a dû aller monter patte blanche à messieurs leurs excellences de Berne. Et puis quand il est revenu à Genève, chaque fois que quelqu'un voulait polémiquer contre Bèze, il rappelait ses fredaines de jeunesse. Mais avouez que ce sont des beaux textes. Alors, il y a les psaumes, il y a ses poèmes, et puis il y a ce magnifique livre où Bèze s'est appliqué à donner des portraits et a fait chaque fois des petits poèmes pour illustrer ses compagnons de lutte, de travail, de foi. Et c'est ainsi que j'aimerais aussi vous lire ce qu'il dit, par exemple, d'Henri Bullinger. Quand il écrit ses textes, tous les personnages sont déjà décédés, donc c'est vraiment un hommage posthume. Si la science peut périr, si la piété peut mûrir, et si l'innocence succombe, science, rondeur, piété ont ici le pas arrêté. Gisons, Henri, dedans ta tombe. Et comment pourra périr celle qui garde de mourir et qui tant de morts font revivre ? Mais quand, or, sous les tombeaux, sera caché leur lustre beau, ta forte main les en délivre. Car par docte, pur, saint écrit, de douce éternelle épris, tu rends savante la science, tu fais fleurir la piété, tu embellis l'intégrité, chérie de la divine essence. Ô l'heureuse conjonction, tu obtiens résurrection par celle que tu tiens en vie. Pourquoi donc pleurons-nous celui, chers amis, lequel aujourd'hui soit et les autres vivifie? Hommage à son maître Calvin. Pourquoi dans une fosse obscure et inconnue est la chair de Calvin par la mort détenue? De ce docte Calvin, tant et tant redouté, de Rome ruineuse et de la papauté, duquel les gens de bien désirent la présence et de qui les méchants craignent même l'absence, de qui vertu pouvoir, tant il était vêtu et orné de grands dons, apprendre la vertu. En l'admirable cours de son heureuse vie, pour compagne ordinaire, il eut la modestie. Elle enterra Calvin de ses deux propres mains. Ô mon soleil poudreux, que ton hôte t'honore, qu'il y a de tombeaux or entre les humains, jaloux et désireux de l'heure qui te décore. Et puis finalement, je vous lirai le petit poème dédié à Pierre Viret, ce Viret qui était professeur, collègue de Bèze à Lausanne. Voyant ce corps battu de langueur, de poison, de plaies, de travaux, de veille, d'abstinence, la vertu du Seigneur t'adore en grand silence. Et si sous haut secret je range ma raison, lisant les beaux écrits que dans cette prison Viret tu as dressés témoins de ta science, de ton vif jugement et de ta conscience, vraiment je vois que Dieu habite en sa maison. Je connais que mon Christ a soin de son Église, quand en ce feu mi-mort, si grand de flamme il attise, de tant d'hommes les cœurs échauffant, éclairant. Si le fol rejetant les sacrés saints oracles nous demande aujourd'hui quelque nouveau miracle, Viret lui en fournit et vivant et mourant. Voilà quelques aperçus de cet effort de Bèze, poète, poète dans ses poemata, poète dans ses écrits et poète dans ses lignes cultuelles, où, pour mettre en place l'entier du psautier, il a fallu 4-5 années de travail. Et puis ensuite, il y a eu une entreprise absolument extraordinaire pour l'impression et la diffusion de ce psautier, puisqu'on estime à plus de 60 000 exemplaires qui ont été tirés à cette période. Il a fallu mettre ensemble tous les libraires et imprimeurs disponibles, non seulement de Genève, mais de Lyon et de Paris. Et puis ensuite, il a fallu trouver ces fameux colporteurs bibliques qui traversaient contre vents et marées, au péril de leur vie, l'entier du territoire français pour apporter ces précieux opuscules aux différentes assemblées des frères en France. Nous sommes toujours au pied de la rue Théodore de Bèze. C'est le moment qu'on monte. Et en montant, vous découvrez ce bâtiment. Ce bâtiment, il est tout contre les murailles. Et pour y accéder, il faut passer par derrière. C'est toujours le même bâtiment. Vous le connaissez probablement quand vous montez le passage des barrières. Mathurin-Cordier. Et voilà la vue beaucoup plus classique, n'est-ce pas? Eh bien, un bâtiment restauré à Genève, ça vaut tout son poids, surtout aujourd'hui. Mais prenez le temps de faire le tour du collège dans sa parure actuelle. Et imaginez que c'est sur les terrains de l'hôpital, là où il y a la Cour de justice, hein, qu'on a construit ce bâtiment, commencé en 58, habité en 59 et terminé en 62. Donc ça allait assez vite et les choses se sont passées comme ça. Et la muraille était où est la rue Théodore de Beze. Donc effectivement, il était accolé à la muraille et c'est là que Beze va s'installer pour donner ses premiers cours. Ensuite, nous le verrons, il ira dans d'autres lieux aussi. Mais c'est important de voir que dans ce collège, Calvin place comme recteur quelqu'un qui avait toutes les compétences pour gérer un collège et pour enseigner. Je pense que Jean-Daniel Payot aurait été choisi à cette époque pour reprendre une nouvelle école de commerce. Voilà. Il y avait dans ce collège 7 classes et puis un certain nombre de classes pour les post-grades, qu'on pourrait appeler l'université aujourd'hui. Mais dans ces 7 classes primaires, il y avait environ 200 élèves par classe. C'est dire que tout le monde se bousculait, hein, et il fallait de la place. Et pour les étudiants en théologie, on dénombre aussi entre 200, 300, ça dépend des années. Tous ces gens sont là. Et on équipe l'enseignement avec un certain nombre de professeurs pour le grec, pour l'hébreu, pour le latin et pour la philosophie. Viendront après le droit, pour que ce soit une vraie faculté, il fallait en tout cas 2 ou 3 matières. Il y a eu des tentatives de médecine, mais ça a échoué très vite, donc ça reviendra beaucoup plus tard. C'est là que Beze fait son travail scientifique. Il enseigne, mais en même temps il travaille. Et c'est là que Beze prend beaucoup de temps pour annoter son Nouveau Testament. Alors, vous avez un exemplaire annoté dans la salle des Bibles, donc vous pouvez le voir en vrai. Et là, c'est simplement la manière dont il annotait les livres, n'est-ce pas ? Il corrigeait, il raturait, il réécrivait en marge. Et puis l'édition suivante intégrait toutes ces corrections. Et puis c'est là aussi où Théodore de Beze a affiné sa doctrine, les éléments de doctrine, et qu'il a notamment réagi sa confession de foi, une confession de foi qu'il a d'abord destinée à son père pour lui montrer combien il avait eu raison de quitter la foi catholique. Je ne sais pas si le père a été calmé, mais enfin, c'était une bonne explication. Et puis, bien sûr, ça a été l'explication beaucoup plus large pour que tous les réformés puissent avoir les rudiments de leur foi fort bien expliqués. Alors, ça, c'est un travail fondamental de toute l'élaboration théologique que Théodore de Beze va faire au travers de ses cours pour effectivement fortifier les membres de la communauté large, l'espace réformé européen de l'époque. On écrit en latin pour les érudits et on écrit en français pour les petits. Et des fois, il vaut mieux être petit pour bien comprendre. Je continue mon petit périple. Là, vous vous y retrouvez tout de suite, n'est-ce pas ? Cette photo du bourg de Four, pour bien montrer que le bourg de Four, c'est la grande place de Genève à l'époque, et c'est les lieux de passage pour nous. Je ne sais pas si vous arrêtez des fois à Clémence et que vous regardez comme ça attentivement les différents faciès qui peuvent défiler, et vous avez une image du monde quand on est au bourg de Four en été. Eh bien, j'ai gardé cette image pour dire, mais Beze, à l'époque, est en lien et en relation avec quantité de gens. Hein. Il a toute une énorme correspondance. Quand on aura fini la correspondance, on pourra dire le nombre de personnages avec lesquels il a été en relation, directe ou indirecte. Et puis, il y a ceux qui viennent le voir, parce que c'était quelqu'un d'intéressant. Donc, il fallait pouvoir venir, prendre ses conseils, découvrir qui il était. Et c'est cette place de Bourg de Four qui peut vous rappeler. Quand vous passez au Bourg de Four, Théodore de Beze et toutes ses multiples relations. Alors, bien sûr, il y a les travaux de Beze pour encourager, soutenir, fortifier. Et puis, il y a aussi les travaux pour défendre la cause et puis mettre en place des relations difficiles avec les uns et les autres. Mais ça, c'est le combat normal d'un responsable d'église et figure de proue de la réforme. Depuis le Beaufort, vous pouvez regarder le nord. Et je n'avais jamais réalisé que depuis le Beaufort, on voyait le lac. Mais allez-y en hiver, il y a moins de feuilles, c'est plus facile. Et je garde cette photo pour vous aider à vous dire, voyons, quand je quitte Genève au XVIe siècle, je n'ai qu'une petite route le long du lac, hein, et puis j'ai surtout le lac pour traverser. Et c'est la voie vers Berne, vers Lausanne, Berne, Zurich, Bâle. C'est donc la voie vers les confédérés helvétiques, vers les frères dans la foi, vers ceux qui se tiennent ensemble et qui essayent de construire et de soutenir la dimension de la réforme. Il y a des figures de proue, aussi bien à Berne qu'à Zurich. À Zurich, j'ai mentionné Bulling, il ne faut en tout cas pas l'oublier, parce qu'effectivement, Bèze avait une énorme gratitude pour ce réformateur de Zurich. Les relations avec les Suisses sont toujours intéressantes, parce que quand on est d'accord, ben, tout va bien. Quand on est du même avis que les Zurichois, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans la finesse, comme Théodore de Bèze, et qu'on a envie de tisser des liens avec certains, de trouver des accords dans des zones grises, à Zurich, à Berne, on est droit dans ses bottes. Donc, il faut manœuvrer avec subtilité. Mais on y arrive, on y arrive. Il y a des accords, il y a une confession helvétique postérieure qui se dessine, on a la même foi, on se soutient, mais on a des manières de gérer les choses qui sont déjà différentes. Si nous allons plus loin, nous entrons en Allemagne. Et dans la grande Allemagne, vous savez que par Land, il y a des Landes réformées, calvinistes, et des Landes luthériens. Alors auprès des réformés, Palatinat notamment, Bèze va s'efforcer de garder un dialogue et les encourager parce que ce sont des responsables de communautés politique ou ecclésiastique, qui ont un certain pouvoir et des compétences. Et grâce à ces hommes du Palatinat, Bèze espère pouvoir soutenir la cause française, la cause réformée française. Donc il faut créer des liens, il faut chercher de l'argent, il faut solliciter des levées de troupes, de façon qu'effectivement le parti réformé huguenot soit renforcé. Donc il y a tout un travail d'encouragement, de confortement et aussi de sollicitation pour trouver un petit peu d'argent. Mais de l'autre côté, c'est le pan luthérien. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que, en fait, on est de la même famille. Mais il y a deux objets sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est le mode de présence du Christ dans la scène. Et puis c'est la nature du Christ. Alors, je ne veux pas vous faire un cours sur la subtilité luthérienne, mais c'est vrai que là, est-ce que le Christ est substantiellement présent dans la scène ou pas ? Si vous êtes à Wittenberg, vous employez substantiellement la bouche ouverte. Si vous êtes à Genève, vous n'en parlez pas. Si vous êtes à Zurich, vous n'en parlez pas. C'est toujours la difficulté entre est-ce que le Christ est présent, ceci est mon corps, ou bien ceci signifie mon corps. C'est des subtilités terrifiantes, mais qui ne se sont résolues qu'en 1973, avec la Concorde de Leuenberg. Donc il faut voir que pendant 4 siècles, il y a eu cette difficulté relationnelle sur ces questions très subtiles, mais fondamentales pour une Église. Alors, il y a eu des efforts de concorde avant. En 1536, il y avait la concorde de Wittenberg, où pratiquement toutes les parties étaient d'accord. Et puis ensuite, il y a eu des efforts de livres de concorde propres aux luthériens, et ça a tendu la corde. Bèze a soutenu un projet d'harmonie des confessions pour montrer que finalement, il n'y avait pas trop de différences les uns avec les autres et qu'on pouvait vivre ensemble. Mais ça n'a pas suffi, le fossé était déjà creusé, et ce n'est que 4 siècles plus tard que les choses se sont réconciliées et reconnues pleinement. Il y a des noms comme Brenz, comme Andreae, comme Selnecker, des luthériens pur sucre, qui aiment écrire leur position. Et à cette époque, quand on reçoit un libelle diffamatoire venant d'un luthérien, on applique la maxime « qui ne dit mot consent ». Donc, il faut répondre. Et alors, on voit un certain nombre de pamphlets qui se répondent à qui et à mieux mieux. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire « qui répond à pont ». Donc, on se la coince. Mais ce n'était pas l'habitude à l'époque. Hein. Il y a eu une tentative, un peu comme nos grandes conférences, la Concorde, le colloque de Montbéliard en 1586, qui est une ultime tentative de mettre face à face Andreae et Bèze, avec des délégations les accompagnant les uns et les autres. Mais vous savez, c'est comme dans les grandes conférences, on prépare les textes avant, et puis après on s'en convainc mutuellement de signer. Eh bien là, les textes étaient prêts d'avant, les carottes étaient cuites quasiment avant le colloque. Donc, on a justifié sa position. On a dit, moi, je ne suis pas, pour employer le terme que vous connaissez bien. Quel est le terme qui réjouit les luthériens? Consubstantiel. Hein. Mais, au contraire, ou de l'autre côté, je n'en parle pas. Et ce colloque a été un fiasco. Ça aurait dû être l'occasion d'une réconciliation ou d'une compréhension mutuelle. Ça aurait permis notamment aux Huguenots français, marqués à la fois par la réforme calvinienne et la réforme luthérienne, de trouver une terre d'asile en pays de Montbéliard, d'être bien reçus. Mais tout ça a fait long feu et chacun est reparti couchant sur ses positions. Ça, c'est le débat avec le Nord. Le Sud. C'est bien le sud, hein, vu de Bourdefour. Hein. Eh bien, c'est la route de la France. Alors, peut-être que plus noblement, j'aurais dû prendre la descente de la Treille, la Place Neuve, etc. Mais au Bourdefour, quand vous y serez, vous pouvez vous rappeler comme ça le nord et le sud. Eh bien, le sud, c'est la France. Le sud, c'est donc les nouvelles églises réformées de France. Celles qui s'efforcent de tenir contre vents et marées pour affirmer leur foi. Elles ont besoin d'aide, de soutien de la part des théologiens helvétiques, notamment Bèze. Elles ont besoin de pasteurs, donc toute la formation des étudiants français qui se donnent soit à Lausanne, soit à Genève, eh bien, c'est des gens qui vont repartir dans leur pays pour soutenir des communautés, créer des communautés, développer leur communauté. C'est un travail de longue haleine, difficile, mais où Bèze est extrêmement présent dans ce travail. C'est donc le côté très pastoral, de facilitateur, qui est mis en avance par Bèze dans ce champ de soutenir les églises réformées, avec notamment les colloques nationaux, comme celui de Paris en 59 ou celui de La Rochelle en 71. L'autre face de ses relations avec la France, pour Théodore de Bèze, c'est son côté diplomatique, c'est d'être le défenseur de la cause réformée, mais devant les princes de la France, et notamment les princes réformés, même si la reine-mère est assez intéressée d'entendre Théodore de Bèze. Il a participé, comme je l'ai dit, au colloque de Poissy. Ensuite, la reine-mère va le garder quelque temps pour essayer de poursuivre le dialogue en petit comité. Ça n'a pas beaucoup avancé, mais Bèze est reconnu comme le porte-parole des réformés. Il instaure un culte, un service religieux dans les palais auprès des princes, et puis il va participer, accompagner les Condés dans la première guerre de religion en 1561-62. Et ensuite, il revient, après ses presque 2 ans, ou plus de 2 ans, passés en France et à Paris notamment, il revient à Genève pour suivre son enseignement. C'est très intéressant de voir ce travail à la fois de pasteur et de diplomate, parce qu'on voit, ça nous donne une bonne mesure de l'envergure du personnage. Et puis, Bèze, qui a soutenu le parti réformé, va être extrêmement loyal à l'égard des autorités royales de France, et c'est ainsi qu'il va soutenir Navarre, le futur Henri IV, qui, malgré sa conversion, eh bien, garde l'estime de Bèze, et c'est comme ça que Henri IV aura un appui certain auprès de Bèze et comme allié de la cause réformée. Et puis, il y a cette fameuse rencontre où, dans les guerres entre la France et la Savoie, Henri IV se trouve à l'Éluisey, au château Sainte-Catherine, qui a été rasé depuis par les Genevois, donc il n'existe plus. Mais dans ce château, eh bien, toute la cour de France a accueilli Théodore de Bèze, qui a pu s'entretenir en tête-à-tête avec le roi. L'entretien fut si amical que le roi lui a dit « Mais Théodore, dors chez moi ?» Il lui a dit « Non, vu mon âge, je rentre chez moi. » Ben, imaginez de rentrer en fin de journée de Viry jusque dans la vieille ville, à cheval ou en charrette, je ne sais, mais ça ne devait pas être très simple pour cet homme. Mais enfin, voilà, ça c'est l'histoire des relations entre Théodore de Bèze et la France. Mais l'axe continue. Nous arrivons à un endroit que vous reconnaissez bien sûr, hein, l'auditoire et puis la cathédrale. La salle Théodore de Bèze, c'est la salle qui se trouve au-dessus de l'auditoire. Elle est ainsi nommée aujourd'hui la salle de paroisse des communautés étrangères qui célèbrent leur culte à l'auditoire, notamment les Écossais, un petit clin d'œil à John Knox, hein, et puis les Hollandais. Et c'est ainsi que ces communautés ont appelé cette salle en reconnaissance aux réformateurs. L'auditoire, ça devient effectivement l'auditoire de théologie, et c'est là où Bèze, après Calvin, va donner ses cours, et d'autres professeurs aussi. Et la même chose, les Maccabées. Les Maccabées sont aussi, à cette époque, dévolus à un enseignement. Et imaginez, s'il y a 200 ou 300 étudiants, eh bien, il faut se répartir à gauche et à droite. Imaginez que dans les périodes de disette dans la cathédrale, il y a en plus de ça des parois mobiles pour faire des réserves de blé. Donc vous voyez que la place réservée pour la prière et la louange devient assez exiguë. Mais ça se faisait comme ça, et comme on était debout, on pouvait se serrer. Le lieu de la cathédrale est important parce que c'est le lieu de la piété. C'est le lieu où Théodore de Bèze, et toute l'église de Genève, mais bien sûr sous la houlette de Théodore, eh bien, va chanter ses psaumes. Et imaginez qu'il y avait 3 cultes en semaine, plus le dimanche, eh bien, on apprenait vite les psaumes par cœur. Hein. Et que j'imagine que Françoise, en épluchant ses pommes de terre, elle chantera le psaume 65. Hein. Donc, c'était la musique qui nous irradiait. Et c'est extraordinaire parce que reprenez les psaumes, c'est extrêmement revigorant. Et si vous avez lu la dernière VP, j'ai vu qu'il y a un organiste aux Eaux Vives qui chante le mérite du chant des psaumes. Et j'en suis très content parce qu'aujourd'hui, on est pris par des musiques qui n'ont pas beaucoup de structure. Voilà, pour le dire simplement. Et avec humour. Voilà. Mais c'est dans ce lieu-là que le creuset de la population réformée, bien sûr, eh bien, était façonné. Et puis, dans ce creuset, il y a cette fameuse prière que vous connaissez tous, une prière qui a passé de Strasbourg à Calvin et à Bèze, et après dans toutes nos liturgies, une prière que Bèze a récitée lors du colloque de Poissy. Hein. « Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons, nous confessons devant ta Sainte Majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés d'une race corrompue, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et qui transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes saints commandements. Ce qui fait que nous attirons sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Toutefois, Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé, et nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une sérieuse repentance, recourant humblement à ta grâce et te suppliant de subvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonne nos péchés à cause de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que nous surmontions tous nos mauvais penchants et que nous portions des fruits de sainteté et de justice qui te soient agréables par Jésus-Christ. Amen. Il paraît qu'on n'ose plus la dire dans nos cultes. Moi, je trouve que c'est tellement central et recentré de pouvoir se dire, mais je me tourne vers le Père, le Fils et l'Esprit pour à la fois reconnaître que je ne suis qu'une pauvre créature, mais que dans sa grâce, j'ai encore un avenir et que je peux emprunter le chemin de celui qu'on appelle de la sanctification. C'est quelque chose qui nous fait du bien à réentendre de temps en temps. Donc, voyez, le Théodore de Bèze, c'est non seulement un intellectuel, c'est non seulement un diplomate, c'est non seulement un poète, mais c'est en même temps un pasteur, un constructeur d'église qui donne tous les moyens utiles et nécessaires et indispensables pour que la communauté de Genève, bien sûr, mais toutes les autres communautés puissent participer pleinement à cette nouvelle foi. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le bas de la cathédrale, le niveau de la cour Saint-Pierre, est plus bas que le niveau de l'hôtel de ville? Vous avez déjà remarqué ça? Mais faites-le une fois consciemment, parce que cette disposition, comment on appelle ça, géologique, ou topographique, eh bien, montre bien que malgré tout l'essor de l'Église, le gouvernement est dessus. Et qu'on ne peut pas badiner avec les syndics. Alors, c'est vrai qu'on a eu des fois des gens très pleins de tempérament, comme Calvin qui ont essayé de convaincre les gens, etc., et Bèze aussi. Mais formellement, le pouvoir civil tient l'entier de la communauté genevoise dans tous ses aspects, qu'elle soit politique, économique, sociale et ecclésiastique. C'est dire que sur ce banc, peut-être que Théodore s'est assis, qu'il a attendu son tour pour aller répondre à une convocation du conseil ou passer la porte en disant « Hé, il faut que je parle à messieurs ». On ne peut pas éviter le passage par l'hôtel de ville quand on parle de Théodore de Bèze. Parce qu'une telle figure était incontournable pour à la fois conseiller les gens de Genève dans leurs réflexions aussi bien locales qu'internationales. Quand il faut savoir quel genre de relation il faut construire avec Berne, on est content d'avoir le conseil de Bèze. Quand il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec M. de Savoie qui est en train de nous casser les pieds, est-ce qu'on déclare la guerre ou pas, il faut avoir des conseils. Donc il y a une interaction d'intelligence entre ce personnage Bèze et le pouvoir politique. Et puis en même temps, quand c'est la communauté locale qui a des soucis, quand il s'agit de défendre l'accueil des réfugiés, quand il s'agit de défendre le salaire des pasteurs, quand il s'agit de mettre du baume dans la compagnie parce qu'il y a évidemment des moutons noirs, il faut aller vers messieurs en disant « Vous avez nommé un tel ». Est-ce que vraiment on le garde? Est-ce que vraiment il ne faudrait pas lui signifier son congé? Est-ce qu'on lui redonne une chance? Enfin, bref, tous ces débats, eh bien, Bèze les a conduits d'une manière très, très serrée avec le Conseil. Et ceci, on l'oublie, mais pendant 40 ans. Il faut bien imaginer que depuis 58 jusqu'à 1605, 1604, 1603, enfin, eu égard à son âge. Mais ça fait 40 ans de présence du même homme qui a la même constance et qui, inlassablement, va défendre la cause réformée. Donc, c'est vraiment Bèze qui a dessiné ce qu'on appelle aujourd'hui la ville-église, qui était, d'une manière très, très symbolique, Genève. Et j'aimerais terminer en vous présentant cet emblème, qui est l'emblème que Bèze préférait, mais que Alain et moi nous adorons. Eh bien, c'est la cité de Genève, tenue par la main de Dieu. vous devez peut-être distinguer ça là-dessus. Hein. Là, il y a la main de Dieu, n'est-ce pas, hein. Et puis la cité de Genève. Hein. Avec ce petit poème, « Peins-moi un globe en l'air d'un filet soutenu, par la puissante main du Seigneur retenu, tel est de Jésus-Christ l'Église très fidèle, qui ne voit rien plus ferme et plus stable qu'elle. » Oui, mais vous comprenez bien que j'ai dû traduire pour vous, autrement vous pensiez qu'ils disaient le contraire. Voilà. Je vous remercie.
Personnage, je crois.